In Vivo, Anne-Laure Ganac.
Philo In Vivo, bonjour à tous et à toutes. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Voilà, je la refais. La vérité, avec un grand V, existe. Je ne sais pas qui oserait aujourd'hui prononcer cette affirmation. Peut-être un militant politique à tendance totalitaire, un extrémiste religieux, un illuminé mégalomane. En tout cas, quelqu'un qui n'inspire pas tellement la discussion, il faut bien le dire. Non, au contraire, tout est relatif. La relativité, il n'y a que ça de vrai. Hein. En gros, ça pourrait être le slogan de notre époque, soucieuse du respect des différences, et tant mieux. Mais ce relativisme est-il forcément plus efficace quand il s'agit de viser la tolérance, l'égalité, la connaissance? Eh bien, Platon n'est pas du tout de cet avis. C'est ce que vous allez nous expliquer dans le second temps de cette émission. Magdalene Beaver, bonjour.
Bonjour.
Alors Magdalene Beaver, on va commencer par vous présenter et puis présenter ensuite ce cher Platon. Magdalene, vous avez 24 ans, vous êtes étudiante en bachelor de philosophie et histoire de l'art et en fin de master d'histoire de la philosophie, des études que vous avez commencées à l'université de Lausanne, mais que vous avez ensuite choisi de poursuivre à Londres, à King's College, rien que ça. Alors pourquoi ce choix, Magdalene? Quelle différence est-ce que vous voyez dans l'approche de la philo suisse et britannique?
Alors je pense qu'il y a vraiment une grosse différence, c'est reconnu, entre peut-être le monde francophone et puis le monde anglophone au niveau de la philosophie. Et bon, en étant en anglaise, j'avais quand même l'impression qu'il y avait des choses que j'aimais pas trop, que je me reconnaissais pas tellement dans les approches francophones. Je trouvais que c'était très proche de la littérature des fois. Il y avait quelque chose qui était très proche un peu de l'importance du style lorsqu'on écrit, plutôt que peut-être des fois de l'argumentation.
Ah oui, là, ce serait plus anglais.
Oui, bon, là, je suis dans les gros clichés. Hein. Bien oui. Sûr, il y a des très bons philosophes des deux côtés. Mais j'avais quand même envie d'explorer un peu ce qui se passait dans le monde anglo-saxon. Et je suis allée faire mon master à Londres. Et puis, il y a beaucoup de bonnes choses aussi. Et puis, en même temps, de nouveau, il y a plein de choses que je me dis qu'ils bénéficieraient peut-être un petit peu plus d'une connaissance peut-être plus historique, plus générale. Mais en même temps, je trouve que c'est super de faire les deux. Et puis,
voilà, vous faites le pont, Magdalene. Oui. On vous attendait, la philo vous attendait pour faire ce pont. Parce que vous avez la double nationalité, c'est ça?
J'espère, bientôt.
D'accord. Pourquoi la philosophie, Magdalene?
Alors, je sais pas, c'était quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Je crois que quand j'ai commencé le collège à Genève, je savais déjà que je voulais faire une option philo. Et ensuite, j'ai connu des professeurs qui étaient vraiment incroyables et qui ont vraiment encouragé tout le monde. Ils m'ont encouragé à continuer. Je suis venue à Lausanne, j'ai rencontré des gens encore super.
Puis vous avez un livre, je crois, qui vous a marqué.
Oui. Oui.
Un livre assez connu. Hein,
oui, c'est un livre assez connu. Et puis c'est marrant parce que j'en ai parlé avec d'autres étudiants qui l'ont lu peut-être plus tard. Moi, je l'ai lu à 13 ans. C'est Le Monde de Sophie de Jostein Gaarder.
Norvégien,
oui. Oui, moi, je l'ai lu assez jeune, enfin 13 ans. Et ça m'a ouvert au monde, surtout des Grecs en fait, parce qu'il y a toute une partie au début de la philosophie antique. Et maintenant, c'est ça que j'étudie.
Oui, c'est ça votre spécialité, oui. Les Grecs. Et donc, ça n'a fait que confirmer votre désir. Et qu'est-ce que ça vous apporte, la philosophie? En quoi est-ce que ça peut être utile, si j'ose ce gros mot, à une jeune fille d'aujourd'hui?
Alors, l'utilité des études en lettres, déjà, c'est quelque chose, c'est la malédiction des étudiants en lettres. On doit forcément toujours dire, oui, on peut faire des choses avec les lettres. Et en plus, moi, j'ai fait philo et histoire de l'art. C'est les deux, plus inutiles.
Pas du tout dans le concret.
Non, pas du tout. En tout cas, d'un point de vue de l'enseignement, on va dire. Mais, non, il y a plein de choses que ça m'a apporté. Peut-être qu'avant, j'avais quand même des convictions, des idées, des questions que je me posais. Et puis, j'avais peut-être la peine à les formuler, de les dire de manière plus claire, plus structurée. J'avais peut-être un peu un manque de confiance. Voilà, j'étais plutôt jeune. Et puis après les études, j'ai pu me lancer un peu plus. Et puis on est même venu me demander de présenter mes idées. Enfin, j'ai participé à un projet super de Louisa Becklin, qui est Oui Féministe.
Oui, la dessinatrice suissesse, qui a lancé donc notamment cette plateforme ouverte aux féministes d'aujourd'hui,
oui.
C'est ça?
Et c'était super parce que je pense que sans ces études en philo, déjà, on m'aurait peut-être pas demandé de présenter mes idées comme ça. Et puis, ça m'a aussi donné l'occasion de voir à quel point ces études, ça m'avait aidé. Je m'étais pas rendu compte, en fait, après. Et puis, en écrivant, c'est ce que je pensais, c'était plutôt mes convictions, mes opinions. Je me suis dit, quand même, ça m'a aidé.
Mmh. Et puis ça vous a ouvert, je crois, vous m'avez dit, hors antenne, à des disciplines dans lesquelles vous n'avez aucune formation, c'est ça?
Oui, alors ce qui est super avec la philosophie, c'est que on peut parler des implications philosophiques de plein de choses, sans forcément être expert dans la matière. J'ai pu parler avec des physiciens, ou des historiens, des sociologues, des artistes, et parler un peu plus de ce qui se passe derrière leur pensée, de leur pratique. Et puis eux aussi, ça les intéresse. Donc il y a plein d'échanges qui sont ultra riches, qui se passent, et puis ça c'est super aussi.
La philo comme porte ouverte, hein, bravo. On passe à Platon. Parce que s'il y a un philosophe dont on connaît le nom, hein, même sans l'avoir beaucoup lu parfois, eh bien c'est lui, Platon. Alors sauf que ce n'est pas son nom en fait, c'est son surnom. Il s'appelait en réalité Aristoclès, c'est ça ?
Oui, et j'ai même entendu que c'était bien pratique qu'il ait ce surnom, parce que sinon on l'aurait peut-être confondu avec un autre philosophe bien connu qui lui vient après, Aristote.
Oui.
Donc maintenant au moins on a les deux noms bien distincts, Platon et Aristote.
Alors Platon, ça vient du grec platus, j'ai lu ça, qui signifie large, ample. Alors on ne sait pas trop si c'est en référence à ses larges épaules, à son grand front ou bien à son style, voilà, large.
Ou à son grand savoir aussi.
Son grand savoir, plusieurs explications avancées. Alors, qui est-il, ce Platon tellement connu, finalement ? Est-ce qu'on sait des choses sur lui ?
Son nom est très connu. Après, la personne, disons, son œuvre, c'est des dialogues. Et c'est des dialogues dans lesquels il met en scène son maître, Socrate, qui a été mis à mort pour ses convictions philosophiques, on va dire.
Donc Platon se cache un peu derrière Socrate, c'est ça ?
Oui. Il y a même un passage lorsque il y a un autre personnage qui dit Platon n'était pas présent à la mort de Socrate car il était malade. Alors on voit à quel point Platon il a pas envie de se mettre en avant. En tout cas, il se cache vraiment derrière ces personnages qui sont assez prenants en fait. Et puis il y a beaucoup de spéculation parmi les spécialistes de est-ce que lorsque ce personnage dit ça, est-ce que c'est vraiment l'opinion de Platon ? Est-ce que c'est la position de Platon ? C'est difficile à savoir.
Oui, parce que juste pour préciser, là, quand vous parlez de ces personnages, il faut bien rappeler à ceux qui n'auraient vraiment pas lu Platon que les dialogues mettent en scène des personnages qui avancent comme ça en quête de vérité avec Socrate pour maître. Et donc c'est Platon qui a écrit tous ces textes. Socrate n'écrivait pas, il se contentait de penser, ce qui est déjà pas mal. Mais donc vous me dites, Platon, il s'est caché derrière ces personnages, notamment derrière Socrate. Donc on sait vraiment rien de lui, on sait pas où est-ce qu'il a vécu, qui étaient ses parents. Dites-moi un petit peu.
Alors, nous avons des dates. On sait qu'il est né en 427 avant Jésus-Christ, mort en 347 avant Jésus-Christ. Donc, un Athénien de bonne famille. On dit même qu'il aurait été le descendant de Solon.
Donc, qui était Solon, pardon, je suis
législateur.
Ah,
vraiment, quelqu'un de... Voilà, on dit qu'il était quelqu'un de... Oui, d'assez bonne famille. Et puis c'est assez courant en fait que les gens qui étudiaient la philosophie à cette époque ou qui se donnaient à réfléchir comme ça, c'est des gens qui n'avaient pas besoin de travailler pour vivre parce qu'ils avaient tout ce temps à consacrer à leur esprit.
Il a beaucoup voyagé, je crois.
Oui, alors en fait, il aurait rencontré Socrate quand il était jeune et puis après la mort de Socrate, il est parti. Mais il va avoir 30 ans.
D'accord. C'était un vieillard à l'époque.
Oui. Enfin, pas un vieillard, mais oui. Il est parti en Italie et il est revenu. Et c'est là qu'il a fondé l'Académie.
Ah, l'Académie, ça c'est important. C'est quand même c'est un mot qu'on lui doit d'ailleurs, le nom d'Académie. Hein, se dire que la Star Academy a pour ancêtre Platon, ça rend tout chose quand même. Non, dites-moi ce que c'est que l'Académie.
Alors, c'était une école. Et elle était placée dans un lieu saint, sacré vers Athènes. Et puis, c'était nommé Academia après un héros grec nommé Académos.
Ouais.
Et donc, c'est de là que le mot Académie nous vient.
Et c'est ce qui se passait dans cette académie.
Oui, alors c'était quelque chose d'assez communautaire. C'était, il n'y avait pas un programme fixe comme par exemple à l'université aujourd'hui ou à l'école. On venait, on parlait au maître, mais finalement c'était les étudiants, les élèves qui venaient avec des questions, ou bien ils parlaient de questions ensemble. Et puis c'était vraiment quelque chose de beaucoup plus constructif en fait. Et l'espèce de contraste prof-élève était beaucoup moins net, on va dire, qu'aujourd'hui.
D'accord, donc tout le monde discutait ensemble, ils vivaient ensemble.
Oui, et ils ne faisaient pas que de la philosophie, ils faisaient d'autres choses, ils faisaient les mathématiques, la géométrie. Platon, il se réfère beaucoup à la géométrie. On voit qu'il trouve que c'est très important, et la dialectique aussi, la rhétorique, même s'il faut faire un peu attention avec la rhétorique des fois.
Oui, pas tomber dans le sophisme,
exact,
c'est ça
exact,
l'art
oui.
des sophistes.
Alors, il était, en tout cas, Socrate, il était très... virulent contre les sophistes, mm-hmm. parce que justement, bah, ça serait des gens qui utilisent l'art de la rhétorique pour convaincre des gens juste au sein de la logique, en fait, des choses, alors qu'il n'y a aucun fondement, aucun contenu. Alors, ces anecdotes de sophistes qui arrivaient à convaincre une foule d'une chose, et 5 minutes plus tard, leur convaincre de l'opposé.
Oui.
Et ils étaient tous convaincus.
Démagogues, manipulateurs, un petit peu.
Oui.
En tout cas, tel que Platon ou Socrate les dénonçaient. Peut-être que plus tard, on a pu se dire que parmi ces sophistes, il y avait quand même des gens qui n'étaient pas si,
oui,
si inconsistants que ça.
Ils ont eu une mauvaise réputation après Socrate.
Un peu trop vite. Ouais, ouais. Donc, cette académie, il s'agissait plus de discussions que de cours. Et en même temps, ça nous montre bien ce que c'est que la philosophie à cette époque-là. Hein. C'est que c'est plus que de la pure réflexion. C'est du vivre ensemble, c'est du bien vivre, c'est du pratique.
Oui, c'est du pratique. Et puis, on a même un exemple de Platon lui-même qui va à Syracuse. Et puis, donc, il y avait un tyran. Et il va à Syracuse. Et donc, Platon, il a toute une théorie sur la manière de bien régner. Ça, c'est quelque chose dont il se soucie beaucoup. Et il va à Syracuse essayer de convaincre le tyran de se donner à la philosophie et de bien régner, de régner justement et de ne pas être un horrible tyran. Et ça marche pas. Il se fait remballer, mais sec. Et ensuite, il retourne lorsque celui-là, il meurt pour aller essayer de convaincre son fils. Et de nouveau, ça marche pas. Et il revient. Et puis, c'est un peu dommage. Et puis, c'est un peu drôle même. On se dit, oh, il était bien naïf, ce Platon, de penser que c'est...
Il espérait changer les hommes, finalement.
Oui. Mais ça montre quand même qu'il avait une volonté de changer le monde. Enfin, c'est un peu niais comme ça, mais il était pas tout seul ou avec ses quelques élites comme ça à parler de philosophie. Non, il voulait aller. Et puis, Socrate, ben, c'est l'exemple parfait. Il allait sur la place publique, il interrogeait les gens, il les énervait même jusqu'à ce que, ben, ils soient mise à mort. Mais...
Oui, c'est difficile en effet de parler de Platon sans parler de Socrate un tout petit peu. Socrate, sa maman était sage-femme et donc lui-même, son art, c'était d'accoucher les esprits, c'est ça?
Oui, alors ça, ça se rapporte pas mal à sa méthode, en fait.
Voilà.
Sa méthode du questionnement, de venir questionner les gens et quand il commence, il va jamais dire « oui, moi je sais, ça c'est ça ». Et puis il donne une définition. Il va aller demander à quelqu'un, mais alors pour vous, c'est quoi la vertu ou la piété ou je sais pas, la justice? Mm-hmm. Puis à fur et à mesure, on voit quand même que Socrate, il a une idée derrière la tête. Hein. Il est,
oui.
Il a quand même.
Faux naïf tout de même.
Oui, ouais. Quand même. Mais oui, c'était sa manière.
Mm-hmm. D'accord. Et pourquoi est-ce que Platon, très traditionnellement, est resté un petit peu dans l'esprit de tous? J'ai cette impression, vous me direz si je me trompe, mais comme l'un des premier, en tout cas le plus grand philosophe de tous les temps. Est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce qu'il y a une raison à cette vision-là?
Oui, alors si on regarde avant Socrate, on parle de pré-socratique. Donc juste pour montrer à quel point c'est quelqu'un d'important.
Mais pourquoi est-ce qu'on en ferait le premier philosophe? Il y en a eu avant, on a d'ailleurs hier parlé d'Héraclite. Pourquoi est-ce qu'on a tendance à le considérer comme ça?
Alors, je pense qu'on a tendance à le considérer comme ça parce que d'un côté, il a aussi réuni pas mal de thèmes dans la philosophie qui sont maintenant très importants. La métaphysique, l'éthique, la politique, même l'esthétique. Il réunit tout ça et puis il essaie de faire un système unique. En fait.
D'accord. Donc il a établi une sorte de système et puis il a eu quand même le soutien, je crois, des traditions qui sont venues après, des traditions chrétiennes notamment, qui l'ont particulièrement mise en lumière. Suivre la vérité ou le relativisme, comment mieux vivre selon Platon? Eh bien c'est ce dont on parle tout de suite après ça.
J'ai des doutes sur le changement d'heure en été. J'ai des doutes sur qui coule les bateaux, qui jette les pavés. Des réserves quant à la question d'angle pour le canapé. J'ai des doutes sur la notion de longévité. Sur la remise à flot de la crème renversée. J'ai des doutes, est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en avez? Des doutes, des idées, des rampes, des carrés, des allongés. Est-ce que vous en avez? Des devises, des pensées, de l'assise du cœur. J'ai des doutes sur l'heure à laquelle tu viens de rentrer. La certitude de t'avoir si fort désiré. J'ai des doutes, est-ce que vous en avez vu? Je milite au parti zombie, je milite mais je m'ennuie. J'ai la détente sensible, l'étiquette fragile, le champagne douce. J'honore la passion bulle sans une seule virgule. Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en avez? Des doutes, des idées, des rêves, des douceurs éveillées. Le goût du danger, des routes à prendre ou à laisser. Est-ce que vous en avez? Du réseau, des rougeurs, des nerfs d'acier. Est-ce que vous en avez déchiffré les affaires, les valises, les noyautés, les médias, les cerises, coupé court à l'appel de la brise et livré le secret des banquises? Est-ce que vous en avez? 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 Est-ce que vous...
Alain Bachung, le secret des banquises. Alain Bachung qui avait des doutes sur à peu près tout, hein, à l'en croire. Alors, le doute quand même, c'est le premier pas de la pensée. Magdalène Beaver, étudiante en philosophie, vous me corrigez si je me trompe, mais le doute, c'est le moteur de la réflexion, hein, contrairement aux certitudes qui figent, qui ferment cette réflexion et qui du coup ne respectent pas les autres. Il n'y a pas de vérité absolue. C'est peut-être ça qu'il voulait nous dire, Alain Bachung. En tout cas, c'est ce que notre époque actuelle a tendance à clamer au nom du respect des différences. Magdalène Beaver, c'est cela dont vous vouliez nous parler ce matin en compagnie de Platon. La vérité comme valeur absolue, d'abord c'est ce qu'on avait hérité de Platon donc, mais qu'aujourd'hui vous dites on a beaucoup rejeté.
Oui, alors c'est quelque chose avec lequel je me suis beaucoup prise la tête en fait, parce que j'ai des convictions sociales, politiques, je suis féministe, je crois à l'égalité. Et c'était des mouvements qui sont venus d'une philosophie qui est beaucoup plus, qui est très différente de Platon, qui va dire, on va rehausser les identités minoritaires, on va dire, il n'y a pas qu'une identité, il n'y a pas qu'une vie qui est la meilleure, et on va essayer de célébrer la différence. Et ça mène à une sorte de relativisme culturel, on va dire, ben voilà, il faut respecter les autres cultures, il faut les valider, il faut les légitimiser. Et ça, je suis d'accord. Mais après, je me suis dit, mais alors pourquoi Platon, ça me parle? Parce que finalement, il va dire, oui, une vérité absolue, c'est un peu dogmatique. Mmh. Et là, j'ai réfléchi, je me suis dit, non, enfin, ces mouvements, ils reposent quand même sur des absolus, ils reposent sur quelque chose où il faut quand même rechercher la vérité d'une certaine manière. Et justement, trop de relativisme, je pense, c'est assez dangereux pour ces mouvements.
Mais alors, c'est quoi le problème exactement du relativisme?
Alors, le problème, c'est qu'après, on... Peut-être que la vérité, elle passe un peu au second plan. Alors, j'ai lu récemment quelque chose dans les nouvelles, plutôt du côté des États-Unis, dans Rolling Stone Magazine, il y a eu un article révélateur sur un cas d'agression, de viol d'une jeune femme.
Oui, c'était dans une université de Virginie.
Oui, l'université de Virginie. Et c'était vraiment une grosse critique en fait, de la culture là-bas, une culture qui est assez misogyne, qui est assez violente, où les jeunes femmes se retrouvent dans des fêtes où il y a beaucoup d'alcool. Enfin, bref, et c'est un gros problème. Et c'est un problème, ça, on le reconnaît. Après, il s'avère que cette histoire, la journaliste ne l'a pas vraiment vérifiée, mmh. et que il s'agit que de la femme en question n'avait pas raconté vraiment ce qui s'était passé.
D'accord, c'était un viol, voilà, inventé en quelque sorte. Mmh. Et finalement, alors il y a eu tout un débat autour de ça.
Oui, les réactions ont été assez bizarres, je trouve, parce que bon, d'un côté, on n'a pas envie d'être la personne qui dit ah ben voilà, donc c'est la preuve qu'il n'y a pas de problème, parce qu'il y a un problème. Et d'autres qui disent mais c'est pas si grave parce que finalement ça nous a fait parler de ce problème et puis c'est pas si important que c'était une fabrication. Et ça, je suis pas d'accord non plus. Et je pense qu'il faut quand même être un peu réaliste. Cette histoire, ça fait du tort au mouvement.
Donc il faudrait, oui, voilà, valoriser un peu plus la vérité, c'est ça, pour ne pas négliger cette vérité-là au bénéfice du relativisme et du respect qui se cache derrière, du respect des différences.
Oui. Oui.
D'accord. Mais alors, qu'est-ce que c'est la vérité chez Platon? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il existe une vérité absolue? Comment on la trouve? Qu'est-ce qu'elle est? Voilà.
Alors, pour Platon, il existe des choses, elles sont vraies. Et ça pour toujours. Alors, ce qui est assez intéressant, il a une espèce de système dualiste où finalement il va dire que ce qui est vrai, ce qui existe vraiment, c'est les idées. C'est quelque chose, c'est les choses qui ne peuvent jamais changer.
Et c'est une sorte de concept un peu immuable.
Un petit peu.
Le monde des idées, hein. Il parle de ça, ce monde des idées. Peut-être que d'ailleurs, pour le mieux le comprendre, il faudrait que vous nous racontiez cette fameuse allégorie de la caverne, non?
Oui, alors c'est un passage très connu dans La République de Platon. Où il raconte un groupe de personnes qui sont dans une caverne et ils regardent des formes qui sont en fait des ombres projetées sur le mur. Donc les gens, ils regardent, ils pensent que c'est ça en fait, c'est ça ce qu'ils voient et c'est tout ce qu'il y a.
C'est le réel.
C'est le réel, voilà. Oui. Et un jour, quelqu'un se lève, il se retourne et voit que... qu'en fait, ce n'est que des ombres projetées. Mmh. Et ben là, il sort de la caverne. Et cette personne va arriver dans le vrai monde, en fait. Va voir les vraies plantes, les vrais arbres, et pas juste des ombres. Et va voir même le soleil. Et ça va l'aveugler même. Ça va être tellement fort. Et ça lui prendra du temps. Il va être désorienté. Et puis, il va sembler fou. Et là, petit à petit, les choses prennent place. Et puis là, il se rend compte que c'est ça.
Donc c'est une métaphore en fait de la quête de vérité qui peut être douloureuse de prime abord. On se prend les rayons en pleine figure.
Exact.
Et finalement, au fond, c'est ce qu'il y a de plus.
Et le pire, c'est qu'après, il dit que cette personne se doit de retourner dans la caverne et de parler aux gens et de leur dire mais ce que vous faites là, c'est pas vrai. Mm-hmm. Et forcément, il passe pour un fou.
C'est le philosophe, ça? Oui. C'est la mission du philosophe selon.
Oui, il se doit de retourner dans la caverne et il se doit de le dire.
Ne pas rester non plus en ermite, c'est une métaphore de ça, hein, ne pas partir en ermite, rester un philosophe dans la cité, hein, c'est
oui.
ça. Mais alors comment est-ce qu'on, nous qui ne sommes pas philosophes, tous, vous peut-être, mais pas moi, pas encore, comment je vais faire pour trouver cette vérité-là?
Ben, je pense pas qu'il faut être un philosophe à plein temps, c'est pas le but non plus, sinon personne ne ferait jamais rien. c'est l'ouverture, c'est d'être ouvert à se questionner. Socrate, il parle pas qu'avec des philosophes. Dans les dialogues de Platon, il parle avec des politiciens, il parle avec des gens qui réfléchissent aussi, mais qui ont un rôle dans la cité. Platon, il voulait, en fait, que dans la cité, chacun, et son travail à faire, mais que ça soit toujours dans la lignée, en fait, dans une bonne lignée, que tout le monde s'assemble et puis que tout le monde soit en train de plus ou moins réfléchir ensemble.
De s'interroger, de réfléchir, de dialoguer. L'art du dialogue, on en parlait déjà un petit peu tout à l'heure. Bien différent d'ailleurs cet art du dialogue, du débat tel qu'on peut l'entendre aujourd'hui, notamment sur nos plateaux télé. Hein. On n'est pas du tout là dans le dialogue. Hein.
Oui, le dialogue pour moi c'est constructeur, les débats c'est destructeur.
C'est destructeur parce que finalement ce sont des certitudes qui s'opposent. Or là, il nous faut bien distinguer cette quête de vérité dont nous parle Platon, ce n'est pas une quête de certitude.
Oui, alors ce qui est intéressant chez Platon, c'est qu'il va dire, oui, il y a des choses qui sont vraies, mais même que la chose qui est la plus vraie ou la chose qu'il faudrait rechercher, c'est le bien. Le bien, le beau, la vérité, c'est des choses qui sont à peu près équivalentes chez Platon, mais il ne nous dit jamais ce que c'est que le bien. Et il dit même qu'il faut se méfier des gens qui pensent savoir ce que c'est que le bien. Parfait, précisément. Oui.
Parce que quand même, hein, revenons à cette idée, si on se met à dire qu'il y a une vérité absolue, on ouvre quand même la porte aux extrémismes. C'est un peu ce que font les extrémistes religieux notamment. Hein.
Oui, exactement. Et puis même d'un point de vue un peu plus, on va dire, soft, des gens qui pensent que parce qu'on est, je sais pas, d'une certaine origine ou d'un certain sexe ou d'une certaine orientation sexuelle, qu'on devrait être d'une certaine manière ou qu'on ne peut pas être autre. Et puis ça, c'est aussi des gens qui sont extrémistes à leur manière.
Voilà, mais donc c'est pas du tout ça ce que nous propose Platon quand il nous parle de sa quête de vérité. C'est en fait avancer, c'est ça, dans la réflexion, en visant une vérité qui ne sera sans doute jamais saisissable.
Alors, Platon, il a quand même des avis assez clairs sur certaines choses. Il parle de la justice, il dit qu'il vaut mieux être juste qu'injuste, et il argumente. Je pense qu'il faut quand même dire, Platon, il vient d'une autre époque. Je suis pas en train de dire que Platon, il serait complètement d'accord avec peut-être les mouvements sociaux d'aujourd'hui. Mais c'est pas ça la question. La question, c'est en quoi est-ce que Platon, il peut nous être intéressant aujourd'hui? Et qu'est-ce qui peut résonner en nous? C'est ça, en fait. C'est la base de sa philosophie, c'est cette quête, ce questionnement.
Ne pas oublier de réfléchir, d'analyser, d'avancer en se disant qu'il y a quand même du vrai à trouver quelque part. Merci beaucoup, Magdalene Beaver, étudiante en philosophie et en histoire de l'art à Londres, donc, même si vous êtes une Suissesse de cœur, safe travels, comme on dit chez vous.
Merci.
Merci aussi à Frédéric Koller qui a réalisé cette émission et à Jean-Baptiste Roumains pour son pertinent choix musical. Quant à nous, eh bien, on se retrouve demain pour faire plus ample connaissance avec un élève rebelle de Platon, Aristote. Aristote avec qui nous parlerons crise de l'art. C'est si, bonne journée. Et surtout, n'hésitez plus, cherchez la vérité.
Infotrafic RTS.
Sur le contournement sud de Lausanne, un accident perturbe toujours la circulation entre l'échangeur d'Écublanc et Lausanne-Malais en direction du centre-ville.
Paléo 2015.